Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le pape a rencontré vendredi matin tous les cardinaux présents à Rome dans la salle Clémentine au Vatican. Moment d'échange et de grande fraternité, deux jours après son élection, nous y revenons dès le début de ce magazine. Nous nous attarderons ensuite sur la première homélie du pape François, jeudi, en la chapelle Sixtine. Vous entendrez également le père Lombardi. Dans une déclaration officielle, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège a fermement réfuté les accusations de connivence présumée avec la junte militaire argentine à l'encontre du pape François. Témoignage également dans cette édition du président du Conseil représentatif des institutions juives de France et du père François Heuvé, rédacteur en chef de la revue jésuite Études. Ce magazine, vous l'aurez compris, est entièrement consacré aujourd'hui encore à l'élection du pape François. Bienvenue dans ce magazine. Le pape François était entouré des cardinaux ce vendredi matin. Deux jours après son élection, il a reçu au Vatican le collège cardinalis dans la salle Clémentine au sein du palais apostolique. Très souriant et détendu, le pape a chaleureusement salué les cardinaux un à un, prenant le temps de les écouter. Auparavant, il s'était adressé à eux dans un discours, les invitant à ne jamais céder au pessimisme. Antonino Gallofaro.
Le pape s'est dit sincèrement reconnaissant envers tous les cardinaux. Il a eu besoin de leur exprimer sa plus vive et profonde gratitude. Pourquoi ? Pour leur collaboration à la bonne conduite de l'Église durant la vacance du siège apostolique, cette délicate phase de transition. Il a en particulier remercié le doyen du Collège des cardinaux, le cardinal Angelo Sodano, le camerlingue, le cardinal Tarciso Berton, et puis celui qui a présidé le conclave, le cardinal Giovanni Battista Re. François a aussi eu une pensée de gratitude envers les jeunes, les familles, les personnes âgées, enfin tous ceux qui lui ont fait vivre un moment chargé en émotion quand il a rencontré la foule pour la première fois place Saint-Pierre, quand il est apparu à la loggia mercredi soir après son élection. Il a eu aussi une pensée particulière pour son vénéré prédécesseur Benoît XVI, une pensée pleine d'affection et de profonde gratitude pour son pontificat, un pontificat, dit François, qui a enrichi et revigoré l'Église. Avant que les cardinaux ne quittent Rome, le pape François les a prévenus, il ne faut jamais céder au pessimisme, à l'amertume que le diable offre chaque jour. Il a rappelé à ceux qu'il appelle ses frères, sa certitude, l'Esprit-Saint insuffle courage et persévérance pour rechercher de nouvelles méthodes d'évangélisation pour porter l'Évangile jusqu'au bout du monde. Pour terminer, le pape François est revenu sur la vieillesse, synonyme pour lui de sagesse, sagesse de la vie qu'il faut désormais transmettre aux plus jeunes.
Au terme de ce discours, le pape François a donc salué l'ensemble des cardinaux, électeurs et non-électeurs, échangeant accolades, sourires, parfois même rire avec ceux qu'il a appelés ses frères, un moment d'échange et de grande fraternité. Ce jeudi, le pape François avait présidé sa première messe en la chapelle Sixtine, une célébration eucharistique en latin avec des lectures en italien au lendemain de son élection au terme de 5 scrutins. Elle était concélébrée par l'ensemble des cardinaux électeurs. Anthony Torzek.
Première messe présidée par le pape François, la Missa pro Ecclesia, la messe de clôture du conclave, elle a lieu dans la chapelle Sixtine, la même où, sous les fresques du Michel-Ange, les cardinaux ont élu mercredi un Argentin, le cardinal Bergoglio, pour succéder à Benoît XVI. Moment d'une grande solennité, comme on pouvait le lire sur les visages, le nouveau pape, qui a conservé sa croix pectorale d'archevêque, a prononcé son homélie sans note, debout, face aux cardinaux.
In queste tre letture...
Le pape François a développé dans son homélie une réflexion sur trois mouvements de l'Église présents dans les lectures. Cheminer, édifier et proclamer sa foi. Notre vie est un chemin, a-t-il déclaré. Et lorsque nous nous arrêtons, quelque chose ne va pas. Il faut donc toujours marcher en présence du Seigneur et à la lumière du Seigneur. Édifier ensuite, édifier l'Église avec des pierres vivantes sur la pierre angulaire qu'est le Seigneur. Enfin, proclamer sa foi, nous pouvons cheminer tant que nous voulons, a affirmé le pape François, nous pouvons édifier tant de choses, mais si nous ne confessons pas Jésus-Christ, quelque chose ne va pas. Nous deviendrions une organisation charitable et non l'Église épouse du Christ.
Camminiamo nella luce del Signore.
Tout en reconnaissant qu'il pouvait y avoir des secousses, des mouvements qui nous tirent en arrière, le vicaire de Rome a appelé le collège cardinalis à avoir le courage de marcher sur les traces du Seigneur avec la croix du Seigneur. Lorsque nous cheminons, édifions et proclamons le Christ sans la croix, nous ne sommes pas les disciples du Christ, nous sommes des mondains. Nous sommes des évêques, des prêtres, des cardinaux, des papes, mais nous ne sommes pas des disciples du Seigneur. Des paroles prononcées avec une grande douceur, mais qui appellent à faire le choix de la radicalité et qui, en quelque sorte, donnent le ton de ce pontificat.
Dans la prière des fidèles, une invitation à prier pour le nouveau pape François, comme pour le pape émérite Benoît XVI, afin qu'il serve l'Église dans le retrait d'une vie de recueillement et de méditation. Appel également à prier pour tous les responsables de ce monde, afin qu'ils n'agissent ni par la force ni par intérêt, qu'ils respectent les personnes, car tout pouvoir vient de Dieu. Le père Federico Lombardi a tenu ce vendredi une nouvelle conférence de presse. Il s'est attardé sur les premiers gestes du pape François et sur son agenda ces prochains jours. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège a également réfuté les accusations sur la prétendue complaisance du pape François à l'égard de la dictature militaire argentine dans les années 1970. Il s'exprimait dans une déclaration officielle. Je vous propose de l'écouter.
La campagne contre Bergoglio est bien nota et risale già diversi anni fa.
La campagne contre Bergoglio est de notoriété publique et remonte déjà à plusieurs années en arrière. Elle est menée par une publication spécialisée dans des campagnes parfois calomnieuses et diffamatoires. La matrice anticléricale de cette campagne et d'autres accusations contre Bergoglio est notoire et évidente. L'accusation se réfère à l'époque où Bergoglio n'était pas encore évêque, mais supérieur des jésuites en Argentine, et à l'épisode des deux prêtres qui ont été enlevés et qui n'auraient pas protégé. Jamais il n'y eut d'accusation crédible et concrète à son encontre. La justice argentine l'a interrogé une fois en tant que personne informée des faits, mais il n'a jamais été accusé de rien.
Ma non gli ha mai imputato nulla. Egli ha negato in modo documentato le accuse.
Lui-même a rejeté les accusations de manière documentée. Il existe par contre de nombreuses déclarations qui prouvent que Bergoglio fit beaucoup pour protéger de nombreuses personnes durant l'époque de la dictature militaire. On connaît aussi le rôle de Bergoglio, une fois devenu évêque, pour appuyer les demandes de pardon de l'Église en Argentine pour ne pas avoir fait suffisamment pendant ce temps de la dictature. Les accusations font partie d'une utilisation d'analyses historico-sociologiques de la période de la dictature, faites depuis des années par des éléments de la gauche anticléricale pour attaquer l'Église. Elles doivent être rejetées de manière ferme.
Da elementi della sinistra anticlericale per attaccare la Chiesa e devono essere respinte con decisione.
Selon le père Lombardi, l'un des deux jésuites enlevés par la junte et que le père Bergoglio n'aurait pas protégé, a raconté ces jours-ci un journal allemand qu'ils avaient tous ensemble, avec le père Bergoglio, concélébré une messe quand celui-ci était évêque de Buenos Aires dans une manifestation publique de paix et d'harmonie. Comme Benoît XVI, en avril 2005, le pape François a adressé un message au grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni. Il y annonce son intention de contribuer au dialogue avec les juifs dans un esprit de collaboration renouvelée. Plusieurs personnalités du monde juif ont par ailleurs adressé leurs chaleureuses félicitations au nouveau souverain pontife au lendemain de son élection. Parmi eux, le rabbin italien Giuseppe Laras, qui dit souhaiter la poursuite d'un dialogue judéo-chrétien fructueux dans la lignée des prédécesseurs du pape François. Nous avons joint Richard Prasquier, président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Il évoque la nécessité d'un dialogue fraternel et confiant entre juifs et catholiques et l'importance d'y sensibiliser les jeunes générations. On l'écoute.
Nous avons pu vérifier que ces relations avec la communauté juive de Buenos Aires, qui est une ville où la communauté juive est très importante, comme vous le savez, sont des relations anciennes, profondes. Il a écrit un livre avec un rabbin de cette communauté, un livre à deux voix, où il discute des problèmes les plus larges, aussi bien des problèmes théologiques que des problèmes de société. Et il a passé des fêtes en même temps que des membres de la communauté juive. On sait que certains d'entre eux le connaissent, ont des relations très amicales avec lui, d'autant que, comme disons, la simplicité extraordinaire de cet homme fait que ces relations se placent à un niveau de fraternité et d'amitié qui est certainement très, très impressionnant.
Concernant le dialogue entre les catholiques et les juifs, alors des pas significatifs ont été faits depuis le Concile Vatican II, sous le pontificat de Paul VI, sous le pontificat de Jean-Paul II, sous celui de Benoît XVI. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Il reste à expliquer, je pense, à la nouvelle génération, c'est-à-dire cette génération de catholiques et de juifs aussi, qui n'a pas du tout connu Vatican II. Il reste à leur expliquer que ce dialogue est important et que ce dialogue n'est pas naturel, et que ce dialogue est survenu à un certain moment de l'histoire, autrement dit Vatican II, et que ce dialogue doit être réalimenté continuellement. Parce que sinon, il fait partie de ces choses, ma foi, que l'on regarde, qui deviennent un peu banales, un peu classiques, mais auxquelles on ne prête pas beaucoup attention. Et je crois que là, il y a un passage du temps, un changement de génération qui fait que ce dialogue doit être réactivé, ne doit pas être uniquement dans les mains des plus anciens qui ont fait un travail magnifique, mais le relais doit être passé.
Le pape François, dans sa lettre au grand rabbin de Rome, parle d'une collaboration renouvelée. Qu'est-ce que cela évoque pour vous ?
Collaboration renouvelée, ça doit être des rencontres entre les catholiques et les juifs, rencontres de gens impliqués dans la vie de la cité, dans les problèmes de la vie de la cité, essayant de voir s'il y a des pistes communes qui proviennent de leur foi et de leur tradition religieuse, et essayant de voir éventuellement si dans les textes qui leur sont communs, il y a des éléments qui sont aptes à leur donner une voix dans un monde qui est difficile, de plus en plus incompréhensible d'une certaine façon, et devant lequel nous avons beaucoup d'inquiétudes en ce qui concerne l'avenir.
En tant que juif, qu'espérez-vous de ce nouveau pontificat et selon vous, de quoi doit-il être porteur ?
Je suis profondément convaincu que les valeurs que défend aujourd'hui le monde catholique et les valeurs que défend aujourd'hui le tout petit monde juif sont des valeurs communes. Ce sont des valeurs de la civilisation que nous avons tous construites avec ses phases sombres mais également ses phases claires. Et je crois que c'est sur ces valeurs de civilisation que nous devons tous nous rencontrer, nous devons tous, je dirais, nous battre ensemble.
Qu'aimeriez-vous souhaiter au pape François à l'aube de son pontificat ?
Écoutez, je ne peux que souhaiter, bien entendu, au pape François les meilleurs vœux pour que son pontificat se passe aussi bien que possible, qu'il soit l'occasion d'une nouvelle prise de conscience et d'un nouvel enthousiasme dans le monde catholique. Et que, bien entendu, dans ce cadre-là, les relations entre les juifs et catholiques se renforcent et qu'elles deviennent de plus en plus fraternelles.
Des propos recueillis par Manuela Afigi. Le président israélien Shimon Peres a de son côté affirmé que le monde avait besoin plus que jamais d'une direction spirituelle et pas simplement politique. Et d'inviter le pape à visiter la Terre Sainte, il sera un hôte bienvenu en tant qu'homme d'inspiration susceptible de renforcer les tentatives d'apporter la paix dans une région tempétueuse. Les messages de félicitations continuent d'affluer du monde entier. Le Conseil des conférences épiscopales d'Europe, dans une lettre adressée au pape François, dit voir dans cette élection un signe d'espérance et d'encouragement, un stimulant qui invite à ne pas s'occuper seulement des problèmes spécifiques au vieux continent, une élection qui introduit une perspective d'universalité de l'Église. Autre message, celui de la conférence épiscopale de République démocratique du Congo, les évêques congolais saluent ce ce choix qu'il qualifie de don de Dieu pour son Église et pour toute l'humanité. Et puis en Chine, les catholiques, en communion avec l'Église universelle, ont accueilli le pape François avec enthousiasme et une grande joie. Le 14 mars, les premières messes dans les paroisses de Pékin ont été caractérisées par une prière d'action de grâce pour l'élection du pape François. La plupart des catholiques chinois sont restés en pleine nuit devant leurs téléviseurs et leurs écrans d'ordinateur afin de suivre en direct l'élection du nouveau souverain pontife. Le supérieur général de la Compagnie de Jésus, le père Nicolas, a, au nom de tous les jésuites, rendu grâce à Dieu pour l'élection du nouveau pape, qui ouvre pour l'Église une étape pleine d'espérance. Tous, a-t-il souligné, nous le remercions pour la générosité avec laquelle il a accepté la responsabilité de guider l'Église en ce moment crucial. Le nom de François, par lequel nous le connaissons désormais, évoque pour nous l'esprit évangélique de sa proximité envers les plus pauvres, son identification avec le peuple des petits et son engagement pour le renouvellement de l'Église. Dès le premier moment où il s'est présenté devant le peuple de Dieu, il a témoigné de façon visible de sa simplicité de cœur, de son humilité, de son expérience pastorale et de sa profondeur spirituelle. La caractéristique propre de notre compagnie, a ajouté le père Nicolas, est donc d'être tout en même temps une société religieuse, apostolique, sacerdotale, lié au pontife romain par un lien très particulier d'amour et de service. François est donc le premier pape jésuite. Nous avons recueilli la réaction du père François Evé, rédacteur en chef de la revue jésuite Études.
C'était pour une bonne part inattendu. Bon, l'action de grâce aussi, que nous ayons finalement un pape assez rapidement. Et puis, il y a la prière pour l'Église, parce que les sentiers qui l'attendent sont nombreux et importants.
C'est le premier pape jésuite de l'histoire et il a choisi le nom de François. Qu'est-ce que cela vous évoque?
Ce premier message, c'est le renvoi à François d'Assise. C'est la simplicité, la pauvreté et celui de l'Église. François a milité pour une certaine réforme de l'Église, mais à l'intérieur de l'Église, par rapport à d'autres courants qui voulaient promouvoir la réforme en dehors de l'Église. Le génie spirituel de François d'Assise a été d'encourager cette réforme à l'intérieur même de l'Église. Je pense que c'est un signe fort.
Vous évoquiez tout à l'heure les nombreux défis qui attendaient donc le pape François. Quels sont pour vous ceux qui doivent être prioritaires?
Il y a des choses, je pense, assez évidentes en interne, la réforme de la curie. Alors, de manière peut-être plus substantielle, l'évangélisation, l'annonce de la foi dans le monde actuel, marqué par l'indifférence religieuse, marqué par le développement d'un libéralisme économique qui semble pas connaître beaucoup de limitations. Là, il y a un vrai défi. Ce qui relève aussi de la transition écologique, en fait, de toutes ces réflexions dans lesquelles je crois que le christianisme a des ressources de pensée.
Qu'avez-vous pensé de ses premières paroles aux fidèles le soir de son élection?
J'étais frappé par sa simplicité et je retiendrai deux mots. Confiance et fraternité. La confiance dans l'esprit, et puis la confiance mutuelle, la confiance que nous pouvons nous faire les uns dans les autres, c'est-à-dire la confiance que l'Église peut avoir dans le pape, mais aussi la confiance que le pape peut avoir dans l'Église. Et puis cet appel à la fraternité, je pense que c'est un homme de réconciliation, c'est un homme de dialogue. Il l'a montré lorsqu'il était en fonction de provincial d'Argentine. Et je pense que nous avons toujours besoin, peut-être d'autant plus besoin de ça, dans l'Église dans le monde actuel.
Des propos recueillis par Manuela Affigi. Le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples a indiqué que le pape François avait à cœur l'évangélisation. Il commentait ce vendredi matin le choix du nouveau pape dans le cadre d'une rencontre au sein de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, à laquelle participait également l'agence Fides qui rapporte cette information. Mentionnant ensuite son expérience du conclave, il a remarqué « Cela a été très émouvant parce que l'on ressent une grande responsabilité. Nous, cardinaux, nous avons indiqué et non pas élu le nouveau pape choisi par Dieu. » C'est ainsi que s'achève ce magazine. Au nom de toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation, merci de l'avoir suivi.